le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Je suis aujourd'hui avec Nathan Vauquer. Bonjour Nathan.
Bonjour.
Aujourd'hui on est le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits humains. Alors Nathan, est-ce que tu peux nous dire, toi qui es passionné d'histoire, pourquoi c'est aujourd'hui la journée mondiale des droits humains? Pourquoi le 10 décembre? C'est quoi l'histoire un petit peu de cette journée?
Eh bien c'est l'anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou DUDH. Elle a été signée à Paris, au Palais Chaillot, le 10 décembre 1948. Elle précise, cette déclaration, les droits fondamentaux de l'homme. C'est un texte sans véritable portée juridique, c'est plus une proclamation de droit. Donc elle n'a pas tellement de valeur, on va dire...
Elle n'a pas eu de valeur contraignante?
Non, pas contraignante, c'est une valeur déclarative.
D'accord.
À savoir que la plupart des pays l'ont signée. Dans le monde. C'est un texte qui a été créé suite à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu, beaucoup de morts et beaucoup de...
C'était un traumatisme.
Tout à fait, et puis les droits humains, même s'ils n'étaient pas tout à fait comme ils le sont aujourd'hui, n'étaient respectés nulle part, ni les conventions de Genève, ni la convention sur les armes, rien n'avait été respecté.
D'accord, final. Donc c'est un traité qui essaye de rassembler un petit peu tous ces droits-là.
Tout à fait. Et alors, c'est un traité qui a été fait par plusieurs pays. Alors, très clairement, ceux qui ont gagné la guerre. Donc, on peut citer parmi les personnes qui ont participé, Eleanor Roosevelt, qui était la présidente du comité de direction, elle est américaine.
D'accord.
On peut citer P.C. Chang, qui est le vice-président chinois. Et après, on a les deux rapporteurs, Émile Saint-Lot, qui est haïtien, et Charles Malik, libanais. Et si on veut pousser un peu plus loin, il y a un Français qui a participé, René Cassin. Voilà, il y a eu plusieurs versions entre 1946 et 1948. Et en fait, cette déclaration, elle énonce des droits fondamentaux de l'individu, leur reconnaissance et leur respect par la loi. Donc, il y a aussi un préambule. Préambule qui est invariable, donc il ne peut jamais changer. C'est-à-dire que là, on peut l'adapter, la déclaration des droits, mais pas le préambule, en fait. Et le préambule où il y a les 8 considérations, donc on peut le découper en 8 parties, c'est le droit lié à la personne, à la justice, au déplacement et à la citoyenneté, à la famille, la liberté, la gestion gouvernementale, l'épanouissement... Et la garantie de ses droits et les devoirs de l'individu.
Ça, c'est dans les derniers articles. Vraiment, on dit que ces droits sont inaliénables.
Exactement. Ce sont les droits humains inaliénables, en fait.
Voilà. Et on garantit que ces droits doivent être appliqués pour tout humain qui naît.
Exactement. En théorie, toute organisation étatique, toute association et tout humain vivant sur Terre doit les respecter. Pour soi
et
pour les
accès,
autres.
Voilà, à ces droits-là. D'accord. Et ben nous, à Amnesty International, on a choisi cette date pour une des campagnes les plus grosses d'Amnesty International. C'est la plus grosse campagne d'Amnesty. Il s'agit des 10 jours pour signer. Alors le concept, il est très simple. On a 10 jours pour obtenir un maximum de signatures en faveur de 10 cas de personnes en danger qui sont emblématiques de la défense des droits humains. Alors on va vous en présenter quelques-uns et puis on va revenir un petit peu sur la Déclaration universelle des droits de l'homme ensuite et un petit peu ce qu'elle est devenue. Alors je vais commencer par Wendy Galarza qui est éducatrice de jeunes enfants à Cancun au Mexique. Elle est également une défenseure des droits des femmes très active. Et alors qu'elle participait à une manifestation contre les violences faites aux femmes et les féminicides, elle a été victime de violences de la part de la police. Elle est convaincue que l'éducation est la clé d'un monde plus juste. Elle travaille aussi au quotidien dans un contexte où les femmes sont souvent humiliées, agressées et tuées parce qu'elles sont des femmes. Le 9 novembre 2020, elle participe à une manifestation organisée par des collectifs féministes à Cancun pour réclamer justice au meurtre d'une femme connue sous le nom d'Alexis. Et alors qu'un groupe de manifestants et de manifestantes arrache et met le feu à des barrières, la police riposte évidemment et tire en l'air à balles réelles, mais aussi, selon les témoignages, en direction de la foule. Et Wendy est blessée à ce moment-là par balle au niveau de la jambe et de l'entrejambe. Elle porte plainte évidemment 2 jours plus tard, mais il faut attendre des mois avant que le parquet consente à inclure dans le dossier les preuves supplémentaires qu'elle souhaite présenter. Il s'agit notamment de vêtements qu'elle portait le jour de la manifestation et qui sont troués en fait par l'impact des balles. Aujourd'hui, l'affaire, elle est toujours en cours d'instruction. Les responsables présumés des tirs dont elle a été victime n'ont toujours pas été amenés à rendre des comptes devant la justice. Et c'est loin d'être un cas isolé. L'histoire de Wendy fait écho à ce que subissent de nombreuses défenseurs et défenseuses des droits humains, des droits des femmes au Mexique, lorsqu'elles descendent dans la rue afin de réclamer justice pour les femmes victimes de violences dans le pays. Mais Wendy ne se laissera pas abattre, elle a fondé un collectif avec d'autres femmes agressées lors de la manifestation du 9 novembre.
On peut aussi parler de Bernardo Calxol. Bernardo est guatémaltèque. Bernardo Calxol a consacré sa vie à l'enseignement et aux activités syndicales. Sa mission, que le peuple maya Quechi, du centre nord du Guatemala, soit en capacité de défendre ses droits. Ses actions visant à protéger son territoire l'ont fait condamner, sans la moindre preuve, à 7 ans de prison. Bernardo Calxol s'est donné pour mission que son peuple, le peuple maya Quechi, du centre nord du Guatemala, soit en capacité de défendre ses droits. Il a également fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger de manière pacifique son territoire et ses ressources naturelles contre le pillage et la perte de biodiversité. Tout cela au risque de sa vie, car le Guatemala compte parmi les pays les plus dangereux au monde pour les personnes qui défendent les droits à la terre, au territoire et à l'environnement. En 2015, Bernardo et son peuple protestent lorsque l'entreprise Oxec, bénéficiant d'une autorisation du gouvernement, érige un barrage sur le fleuve Canabon, en vue de construire deux centrales hydroélectriques. Ce fleuve, situé sur le territoire du peuple maya Quechi, est l'un des plus longs du Guatemala, et il est sacré pour ces communautés. La construction des centrales électriques les avait déjà privés d'une partie de leur forêt. Ce nouveau projet allait maintenant limiter leur accès à l'eau. Bernardo engage alors plusieurs recours en justice contre le projet, et en 2017, la Cour constitutionnelle reconnaît que le droit des communautés autochtones à la consultation préalable, libre et éclairée, a été bafouée. Ce droit, reconnu internationalement et inscrit dans la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, qui a été ratifiée par le Guatemala. Cependant, les actions de Bernardo l'ont mis en désaccord avec l'entreprise Oxec, ainsi qu'avec les élites politiques et économiques. Il fait alors l'objet d'une campagne de dénigrement, émaillée de diverses accusations sans fondement. En 2018, un tribunal le condamne ainsi à 7 ans de prison, le déclarant coupable sans la moindre preuve de détention illégale avec circonstances aggravantes et de vol aggravé.
Alors si vous voulez aider ces deux personnes, vous pouvez aller sur notre site amnestyinternational.fr pour signer. Je vous le rappelle, un maximum de signatures pendant cette campagne. Là, pour ces deux cas, on touche directement aux premiers articles de la DUDH, puisqu'on parle de la sécurité, de la sûreté de la personne. Alors Nathan, qu'en est-il de ces droits fondamentaux, comme le droit à la vie, à la dignité, à la sûreté? C'est vraiment les trois premiers. On sait qu'ils ne sont pas respectés partout dans le monde, hein, loin de là, mais en France, sur le territoire français, est-ce que ces droits-là sont respectés?
Alors, oui et non pour certains, et pas du tout pour d'autres. Premièrement, pour le droit à la vie. Est-ce que tout le monde est libre et égaux en droit? En théorie, oui, dans les textes de loi français. Et l'État essaie quand même de l'appliquer un petit peu, mais en pratique, on voit que quand même c'est un droit qui est relativement bafoué. Par exemple, on n'a pas tous accès au même droit à l'éducation. On est tous libres et égaux en droit, mais les droits ne s'appliquent pas toujours de la même manière. Par exemple, pour les populations telles les Roms, qui peuvent être expulsées des écoles, les populations de personnes qui viennent vivre en France, eux non plus n'ont pas les mêmes droits, alors qu'ils sont censés être nés libres et égaux, même s'ils sont nés ailleurs.
Effectivement, puis de toute façon, ils sont sur le territoire français, donc ils devraient avoir accès aux mêmes droits que les citoyens, citoyennes
français. À savoir que ces droits s'appliquent à tout le monde, et sont trans-pays et...
Oui, transnationaux, en fait. À partir du moment où on est sur un territoire qui a signé la DUDH, on devrait pouvoir avoir accès à ces droits-là.
Exactement. Par exemple, les personnes qui sont nées dans d'autres pays en France et qui n'ont pas la nationalité française ou qui, des fois, l'ont, ne peuvent pas voter. On a les personnes.
En tout cas, pas pour les présidentielles.
Pas pour les présidentielles. Maintenant, pour les élections cantonales.
Les municipales ou les cantonales.
Effectivement, on peut voter. Il y a aussi, par exemple, le fait que dans les prisons, Dans les prisons, l'accès au droit de vote dans les prisons est quand même très restreint, même si, pareil, il est autorisé.
Oui, effectivement, en théorie, on a le droit de vote.
C'est ça. C'est-à-dire
mais en pratique...
Il y a deux cas, je dirais, où l'État ne fait pas son travail. C'est là où l'État ne respecte pas du tout le droit. Donc, par exemple, comme le cas avec les migrants ou dans l'éducation. Et le cas où, par exemple, comme avec les prisons, où, en fait, il dit qu'il respecte. La loi dit que ça doit être respecté, mais ce n'est pas appliqué.
Ouais. Voilà. C'est vraiment une question d'application à la loi de l'application de la loi en pratique qui pose problème parce que effectivement dans le droit français tous les hommes naissent libres et égaux en droit.
Tout à fait.
Et pour ce qui est de la dignité,
alors pour la dignité là par contre c'est pas du tout respecté. Alors encore une fois en théorie il y a le droit au logement en France. De nombreux droits qui permettent normalement de vivre bien et décemment sa vie. Mais par exemple, tous les hivers et tous les étés, parce que l'été est encore plus mortel, des gens meurent dans la rue, de froid, de faim, de chaleur.
Et pour ce qui est de la sûreté également, parce que ça fait, c'est vraiment les trois premiers droits, le droit à la vie, la dignité et la sûreté.
Alors la sûreté, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pareil, n'est pas respectée. Même s'il y a de forts accents en ce moment qui sont mis dessus de par nombreux hommes politiques, la sûreté en France est peu respectée. On a les violences policières, les délits de faciès et les injustices sociales nombreuses. Les gens ne sont pas forcément en sécurité. On peut aussi parler du droit du travail dans la sûreté. Ça rejoint aussi un peu celui de la dignité, parce que des gens qui ont accès à un travail mal payé, dans des mauvaises conditions.
Oui, la dignité au travail,
c'est... Ça bafoue, et les droits de la dignité dont on parlait tout avant, et les droits de la sûreté, en termes d'accidents du travail.
Sûreté économique et sûreté...
Tout à fait, sûreté économique, les accidents du travail, le stress.
Ok, bon, bah déjà, on voit que sur les premiers articles en France, on essaie de respecter, on dit qu'on respecte, mais c'est vrai que... En pratique, ça n'allait pas vraiment. En théorie, oui, mais c'est quelque chose qui semble difficile d'appliquer en pratique. Alors, bon, il faut savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure, la DUDH, ce n'est pas un texte juridique contraignant. Donc, bien sûr, même si on le signe, il n'y a aucune sanction, en fait. Si on ne le respecte pas, c'est finalement pas très, très grave. Et ça pousse certains pays à ne pas du tout respecter un bon nombre de ces droits, tout en prétendant le contraire. Et ça, c'est le cas d'autres pays comme l'Égypte, où on défend Amnesty International Mohamed El-Bakr, qui est un avocat spécialisé dans la défense des droits humains en Égypte. Lui, il est emprisonné depuis plus de 2 ans pour avoir défendu des personnes qui subissaient des violations de leurs droits et il n'a toujours pas été jugé. Mohamed El-Bakr, pour vous donner un petit peu le personnage, il est féru de sport, il est amateur de football, de squash, de moto, de natation et de basket et il apprécie également la musique nubienne et la culture de ce peuple autochtone. Et face à la multiplication d'arrestations et de détentions arbitraires, de disparitions forcées et d'autres violations de droits humains à l'encontre de la société civile égyptienne qu'il affectionne dans sa culture, Mohamed fonde en 2014 le Centre Adala pour les droits et les libertés. En septembre 2019, alors qu'il se rend au parquet pour défendre un ami, Mohamed est arrêté. 2 ans plus tard, les autorités égyptiennes ne l'ont toujours pas jugé. En lieu et place, elles ont émis à son encontre de fausses accusations de terrorisme et l'ont jeté en prison uniquement parce qu'elles désapprouvaient son travail en faveur des droits humains. Alors que la loi égyptienne fixe à 2 ans la durée maximale de détention provisoire, ce qui est déjà beaucoup, Mohamed n'a toujours pas été inculpé et son dossier d'enquête reste confidentiel. Au regard du droit égyptien, sa détention est donc arbitraire et illégale, même au regard du droit égyptien. Donc, au regard du droit international, c'est encore pire. L'arrestation de Mohamed est loin d'être un cas isolé. Depuis plusieurs années, des milliers de manifestants et de manifestantes pacifiques, de figures de l'opposition et des défenseurs et défenseuses des droits humains ont été arrêtés par les forces de sécurité égyptiennes pour tenter de faire taire les critiques et d'empêcher d'autres manifestations. En prison, les autorités font preuve de cruauté à l'égard de Mohamed. D'après nos enquêtes, elles ne l'ont pas autorisé à voir son père qui est mourant. Il est maintenu dans une cellule exiguë et insalubre qui ne dispose ni de lit, ni de matelas, ni d'eau chaude. Il lui est interdit de faire de l'exercice en plein air et même d'avoir en sa possession des photos de sa famille. Et pourtant, Mohamed garde espoir. Il nous dit « Un jour, nous poursuivrons notre travail afin d'établir des sociétés libres ».
On peut aussi parler du cas de Jana Jihad, 15 ans. C'est une défenseuse des droits humains et une journaliste qui vit en Cisjordanie, territoire occupé par Israël. Dès ses 7 ans, elle commence à signaler les violations des droits humains perpétrées par l'armée israélienne. Aujourd'hui, Jana est harcelée et menacée de mort en raison de son travail. Jana Jihad, adolescente de 15 ans, elle vit à Nabi Saleh et elle n'aspire qu'à une vie normale en Israël. Elle déclare, comme tous les autres enfants, je voudrais pouvoir jouer au football avec mes amis sans recevoir une pluie de grenades et de gaz lacrymogènes. Jana avait 7 ans lorsque son oncle a été tué par l'armée israélienne. Avec le téléphone de sa mère, elle commence à filmer les exactions commises par les forces israéliennes à l'égard de sa communauté et les diffuse via les réseaux sociaux. Ainsi, à l'âge de 13 ans, Jana est reconnue comme l'une des plus jeunes journalistes du monde. Son travail d'information sur la représentation violente que l'armée israélienne inflige aux Palestiniens et qui se solde souvent par des morts s'avère celui d'une professionnelle. Les forces israéliennes procèdent à des descentes nocturnes, démolissent des logements et des écoles et répriment les populations palestiniennes qui se mobilisent pour défendre leurs droits. Les enfants palestiniens sont particulièrement touchés, un grand nombre d'entre eux étant tués et blessés. Pourtant, l'État d'Israël est tenu de respecter la Convention relative aux droits de l'enfant qu'il a ratifiée. Mais à ce jour, les autorités n'appliquent pas les protections prévues par celle-ci aux enfants palestiniens des territoires palestiniens occupés. Je veux connaître la liberté, la justice, la paix et l'équité et une vie exempte de racisme sur ma terre natale, s'exclame Jana. Aujourd'hui, en raison de son travail reconnu de journaliste, Jana est harcelée par les autorités israélienne et subit des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Son droit à la liberté d'expression, son droit de réunion pacifique, ainsi que son droit à l'éducation sont constamment menacés.
Et oui, le travail de journaliste, c'est vraiment un métier qui devient de plus en plus dangereux sur l'ensemble du globe. Il faut être de plus en plus courageux pour être journaliste aujourd'hui, à certains endroits plus que d'autres. Et pourtant, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de presse, la liberté de pensée, la liberté de réunion, eh bien, toutes ces libertés sont des libertés fondamentales qui sont inscrites dans la Déclaration universelle. Alors, qu'en est-il de la liberté des libertés en France ? Nathan, la liberté d'expression, je le rappelle, c'est... La liberté d'expression implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Ça, c'est la liberté d'expression selon la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors en France, est-ce que ce droit est respecté d'après toi ?
Alors, encore une fois, en théorie, le droit est censé être respecté. D'ailleurs, pendant assez longtemps, il a été respecté. Mais on peut dire que dans la décennie qui vient de se passer, il y a eu une vraie dégradation, en tout cas en France, de ces droits. Par exemple, l'interdiction de filmer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions.
Ça, c'est dans la loi...
Sécurité globale.
Sécurité globale, voilà,
tout à
c'est
fait.
Ça.
La loi sécurité globale. Qui est très clairement une violation de l'article de la DUDH sur la liberté d'expression. On a aussi le fait que des nombreux journalistes qui couvrent des manifestations soient arrêtés, soient empêchés de faire leur travail.
Effectivement, soient violentés aussi.
Violentés aussi, et un peu tout type de journalistes. On a des journalistes indépendants qui sont évidemment les plus touchés car les plus fragiles, mais on a eu aussi des journalistes de grands médias, comme même carrément du service public, qui ont été empêchés de faire leur travail et même violentés. Voilà, et on a aussi de plus en plus des gens qui portent plainte contre des journalistes parce qu'ils divulguent des informations qui n'ont pas les mêmes idées qu'eux.
Mmh. Donc ça porte atteinte à la liberté d'expression également ?
Tout à fait, parce que c'est possible d'avoir un débat où on n'est pas d'accord entre deux journalistes, entre un journaliste et un politique, entre plusieurs personnes de la société. Mais quand on porte en diffamation, on attaque en justice, alors que juste parce qu'on n'est pas d'accord, là, ça porte atteinte à la liberté d'expression et même aux droits du journaliste en général.
Alors, c'est vrai que la liberté d'expression, c'est un droit qui est assez difficile à faire appliquer. C'est assez complexe parce qu'il y a évidemment plein de facteurs par rapport aux personnes qui seraient potentiellement touchées par les propos d'un journaliste. Mais il n'empêche qu'effectivement, la loi Sécurité globale qui empêche de documenter les manifestations, ça porte atteinte à la liberté d'expression et ça porte aussi atteinte finalement à la liberté de réunion. Parce que voilà, en France, bon, les manifestations ont été ces dernières années de plus en plus victimes des violences policières. Et. Après, il y a encore d'autres libertés qui sont garanties par la Déclaration universelle. Il y a la liberté de culte également. La liberté de culte en France, bon, encore une fois, dans les faits, grâce à la loi sur la laïcité, la liberté de culte est censée être garantie. Après, dans la pratique, c'est vrai que il y a beaucoup d'habits religieux. Les signes ostentatoires religieux, en fait, sont souvent discriminés dans l'espace public. Déjà, ils sont interdits dans les lieux de la République, selon la loi de la laïcité. On en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, dans les lieux publics, effectivement, l'habit religieux peut être assez discriminant. Donc, ça restreint légèrement la liberté de culte, en tout cas. Et donc, on a toutes ces libertés fondamentales, la liberté de culte, la liberté de réunion, la liberté d'expression, la liberté de penser également. Alors bon, ça c'est quand même assez respecté en France, la liberté d'opinion. Mais il y a des pays où c'est vraiment pas le cas et où on peut être violenté pour ses opinions et pour exercer simplement son droit à la liberté d'expression. Et je pense notamment à la Tchétchénie où on a l'ONG Sphère que on défend avec Amnesty International dans les 10 jours pour signer. Et cette ONG défend les droits des femmes et les droits des personnes LGBTI depuis 2006. Elle a été fondée par les militantes Anna Charina et Vera Tchernina. Désolé pour la prononciation. Et c'est une association qui est la cible depuis des années d'attaques violentes menées par des groupes anti-LGBT. Sphère, c'est une des plus anciennes organisations ukrainiennes qui intervient dans la défense des droits des femmes et des droits des personnes LGBTI. Pour autant, c'est une ONG qui subit des attaques à répétition de la part des groupes anti-LGBTI et c'est des groupes qui sont de plus en plus nombreux à travers le pays. Alors l'organisation, elle offre un espace protégé aux femmes et aux personnes LGBTI à Kharkiv, qui est la deuxième ville d'Ukraine. Et il y a quand même des groupes violents qui s'en prennent aux sympathisants, sympathisantes de l'organisation et qui dégradent leurs locaux. On a urine sur les murs, étalage de matière fécale sur les poignées des portes, bris de vitres et slogans homophobes. Ça, c'est un petit peu leur quotidien. Et évidemment, les deux fondatrices de Sphère ont porté plainte auprès de la police à chaque incident. Les auteurs des attaques jouissent toujours d'une impunité quasi totale. Sur 30 incidents subis par l'organisation depuis 2017, il y a seulement 3 d'entre eux qui ont fait l'objet d'une enquête de la part de la police. Aucun des 3 incidents n'a été qualifié de crime de haine et les enquêtes ne progressent pas du tout. Malgré les menaces et les tentatives d'intimidation, Sphère a organisé en 2019 la première marche des fiertés à Kharkiv. L'organisation a réussi à faire de cet événement un immense succès qui réunit plus de 3000 participantes et participants. C'est sans compter sur les agents de police qui ne protègent pas efficacement les manifestants et les manifestantes contre les violences et qui, au contraire, lancent eux-mêmes des insultes homophobes. En raison de l'inaction de la police face aux attaques constantes, les membres de l'ONG Sphère et leurs sympathisants et sympathisantes vivent dans un état de peur permanente. Et on a également une autre défenseuse des droits en Chine.
Tout à fait. Zhang Zan, pour avoir dénoncé la mauvaise gestion de la crise du Covid par les autorités chinoises, a été torturée et condamnée à 4 ans de prison. On peut être très inquiet pour la santé de Zhang Zan. Sa famille nous a informé qu'elle se trouvait entre la vie et la mort. L'état de santé de Zhang Zan se dégrade. Elle a été admise à l'hôpital pour malnutrition aiguë, mais a vite été renvoyée en prison. Lorsque la ville de Wuhan, alors centre de l'épidémie du Covid-19 en Chine, est confinée en février 2020, Zhang Zan se rend sur place en tant que journaliste indépendante pour décrire les évolutions de la crise. Déterminée à révéler la vérité sur la situation, elle utilise les réseaux sociaux pour signaler l'arrestation d'autres journalistes indépendants et le harcèlement exercé par les autorités à l'égard des familles de patients atteints du Covid-19. Les journalistes citoyens constituent alors la seule source d'information directe et non censurée au sujet de l'épidémie. Mi-mai 2020, Zhang Zhan est portée disparue. Les autorités ont par la suite indiqué qu'elle est détenue par la police de Shanghai. En juin 2020, Zhang a entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention. Pour la punir, les autorités carcérales lui ont entravé les pieds et les mains 24 heures sur 24 pendant 6 mois. Ces traitements cruels et inhumains l'affaiblissent au point qu'elle doit assister à l'audience de son procès dans un fauteuil roulant en décembre 2020. Pour la citer, nous devrions aspirer à connaître la vérité et chercher à obtenir à n'importe quel prix. La vérité est le bien le plus cher qui existe dans ce monde. Le tribunal la condamne alors à 4 ans d'emprisonnement pour avoir cherché à provoquer des conflits au sein de la société chinoise.
On a également Panusaya Rung, qui est thaïlandaise. Elle se décrit comme une personne humble et discrète. Elle compte pourtant parmi les principales voix du mouvement des jeunes pro-démocratie en Thaïlande. En raison de cette activité militante, elle risque l'emprisonnement à perpétuité. Rung continue de mener des manifestations en faveur de réformes constitutionnelles et sociales. Elle est accusée de provoquer des troubles. En mars 2020, elle est arrêtée en vertu de la loi relative aux crimes de lèse-majesté qui interdit toute critique de la monarchie. Emprisonnée pendant 60 jours, elle contracte le Covid-19 en détention. À 6 reprises, les autorités refusent sa libération sous caution, ce qui l'incite à les défier, en entamant une grève de la faim, elle aussi, de 38 jours. Le 30 avril 2021, elle est finalement libérée. Et elle nous dit « En Thaïlande, les personnes qui aspirent à une société meilleure sont envoyées en prison. Aujourd'hui, elle fait face à des dizaines de chefs d'accusation et risque l'emprisonnement à perpétuité. C'est quand même incroyable le nombre de personnes qui sont envoyées en prison dans le monde pour simplement essayer de défendre leurs droits alors qu'ils existent normalement et il existe de l'autre côté énormément d'impunité pour les violences policières ou contre des groupes minoritaires ou contre les femmes. » Pourtant, Nathan, on est d'accord qu'il existe plusieurs articles de la DUDH qui sont en lien avec la justice.
Tout à fait, on a le droit à la justice. C'est l'égalité devant un tribunal et la protection contre les agressions. Ça rejoint un petit peu la sûreté, même si c'est complémentaire, même si c'est un autre droit. Alors c'est encore une fois un droit qui en France est théoriquement respecté. Mais ce qui montre une sorte de bonne volonté, entre guillemets, de la France sur tous ces droits, mais qui, dans l'application, encore une fois, a du mal à exister. On a, par exemple, en premier cas, même si c'est très bien d'en avoir, les avocats commis d'office et des avocats qui sont payés très cher pour pouvoir exercer. Et malheureusement, les avocats commis d'office sont souvent de moindre qualité, alors pas toujours, hein, mais souvent de moindre qualité que des avocats qui peuvent être payés ou qui sont plus réputés.
Effectivement, donc ça crée des discriminations économiques.
Il y a aussi une très grande désinformation des droits.
Effectivement, on connaît peut-être pas assez, de manière assez équitable, nos droits.
Je pense que personne n'a eu de cours. Peut-être jusqu'au lycée, sur les lois françaises et sur les droits qui pouvaient réellement le protéger, peut-être un peu en éducation civique, mais c'est assez court.
Et on a également l'évasion fiscale pour ce qui est de l'impunité. Enfin, en tout cas, on n'est pas tous égaux devant la loi pour l'évasion fiscale. On a les Panama Papers et toutes les sortes de papers. Tous les ans, on en a des nouveaux. Ça choque plus personne,
non ? Non, ça choque plus personne. Et surtout quand on connaît, on va dire, un petit peu l'écart ubuesque qu'il y a entre certaines personnes qui, pour pouvoir manger, alors que ça aussi, c'est un droit en France, peuvent se retrouver à être condamnés à plusieurs mois de prison pour avoir volé quelques pâtes ou du fromage, alors que certains pour avoir détourné plusieurs millions ou dizaines, voire centaines de millions d'euros pour les plus vindicatifs, ne sont même pas poursuivis par la justice.
Effectivement, et en tout cas pas condamnés. Oui. Et pour ce qui est de la protection contre les agressions, en France, alors bon, c'est pareil, on essaye de garantir la protection des gens, mais il y a quand même que 2% des affaires de viol qui font l'objet d'une condamnation, et encore là on parle des affaires de viol qui sont déclarées, beaucoup de féminicides, beaucoup d'agressions discriminantes, je parle de transphobie, d'homophobie, de harcèlement scolaire, de cyberharcèlement, de violence conjugale, donc voilà, en application on a très peu de protection pour ce genre d'agression. On a une police qui fait de moins en moins bien son travail, en fait, parce qu'elle a de moins en moins de moyens, il faut le dire aussi, comme de nombreux secteurs en France. On investit des sommes qui sont considérables dans le matériel, comme les gaz lacrymogènes ou les équipements de protection ou les matraques, mais finalement très peu dans la formation des forces de l'ordre ou dans la gestion des administrations policières. Donc c'est comme tous les métiers, quand on n'a pas de moyens, on ne peut pas travailler correctement. Et du coup, ça se ressent directement sur notre droit à la sûreté en France, notre droit à la justice. On n'est pas protégé contre les violences de nos propres concitoyens. Mais dans d'autres pays, ce sont des droits qui ne sont pas protégés du tout. On n'est pas du tout protégé par la police, comme c'est le cas dans de nombreux autres défenseurs de notre campagne 10 jours pour signer. Je vous invite à aller sur notre site amnestyinternational.fr pour vous informer sur les autres cas des 10 jours pour signer et pour signer les pétitions qui sont en rapport avec cette campagne. On a encore Mikita Zalataru qui est biélorusse, qui a été condamné sans aucune raison réelle. On a Siam Ali Ahmed qui vient d'Érythrée. On a également Imoleayo Michael qui vient du Nigeria. Toutes ces personnes sont défenseurs des droits humains et vous avez le pouvoir de les aider. Donc je vous encourage à aller sur leur site et je vous souhaite une excellente journée.
Bonne journée à tous aussi.
Bonne journée à tous et à toutes sur Radio FM+.